Chapitre 29. Je pris mon stylo et tirai la petite table bancale jusque sous la lumière de la fenêtre. J'y posai le plateau, mangeai ma miche de pain frais, bu mon lait chaud et moussant, afin qu'on me prenne pour un garçon bien sage qui ne remarquait rien et obéissait docilement à son oncle. Et comme je le savais capable de me demander, fût-ce sur le ton de la plaisanterie, de lui montrer la lettre, je choisis soigneusement mes mots. Je fis le récit de mon voyage et de mon arrivée dans les Downs. J'essayai de décrire Highgate sans mentionner les araignées et la poussière. Je parlais des cheveux grisonnants du capitaine entourant son visage jeune, mais sans dire qu'il me surprenait avec ses questions abruptes sur ma mère. Je racontai le terrier des blaireaux et le chêne foudroyé, puis je cherchais l'inspiration en suçant le bout de mon porte-plume. De peur que Mrs. Marlowe ne s'inquiète en imaginant que personne dans cette maison ne s'occupait de moi, comme elle l'avait fait, je parlais de Martha et expliquai que je l'avais aidée à étendre les torchons de cuisine et que je me promettais de fixer les cordes à linge plus solidement au mur. Enfin, j'écrivis la seule chose que j'avais vraiment envie de leur dire, combien me manquaient les moments heureux passés en leur compagnie. Ayant conclu en les assurant de toute mon affection, je posai ma plume et me mis à penser avec émotion à cette famille qui m'aimait vraiment, qui m'avait ouvert au monde et appris à rire, qui m'avait traité avec simplicité et sincérité, sans cachotterie ni silence pesant. Je pliai la lettre, écrivis l'adresse avec soin et la glissai dans ma poche. J'entrepris ensuite de vider mon sac de voyage. Tant pis si cela devait faciliter la vie de ceux qui m'espionnaient. Maintenant, je n'avais plus qu'à me tourner les pouces. Mais, d'un seul coup, un irrépressible besoin de bouger me conduisit en bas dans la bibliothèque. À mon grand désappointement, je ne trouvais sur les rayons que d'assommantes biographies d'hommes prétentieux. L'ennui et l'affreuse odeur de renfermé régnant dans cette pièce me poussèrent à ouvrir la porte-fenêtre et à sortir sur la terrasse. Je n'y trouvais rien d'autre à faire que donner des coups de pied dans les mauvaises herbes poussant entre les dalles de pierre et examiner des jardinières vides et toutes fêlées. C'est alors que j'aperçus le jardinier, toujours lui, qui m'observait. Cette fois, ce fut l'exaspération qui me motiva. Sortant la lettre de ma poche, je traversai nonchalamment la pelouse en direction d'un banc en bois, faisant mine de me concentrer sur le papier que je tenais à la main pour que le jardinier pense qu'il n'avait pas besoin d'aller se dissimuler dans l'ombre. Mais arrivé à sa hauteur, je me tournai brusquement et lui lançai « Votre curiosité n'est donc pas encore satisfaite? Suis-je si bizarre, à vos yeux? Ai-je deux têtes ou quatre bras pour que vous me lorgniez constamment de cette hérébété ?» À ma grande surprise, il me sourit, ce qui m'énerva encore plus. « Et maintenant, je vous amuse ?»« Non, non !» s'écria-t-il, en essayant de prendre un air plus réservé. C'est un souvenir qui me faisait sourire. Un souvenir ? J'abandonnai mon tamboucon. Après tout, j'étais bien là pour mener mon enquête, non ? Un souvenir de ma mère ? Il acquiesça. « Non seulement tu ressembles physiquement à ta mère, mais en plus, comme elle, tu as vraiment du caractère. » J'étais stupéfait. Ma mère avait du caractère ? C'est peu dire, répondit le jardinier en riant. Certaines fois, elle était même colérique. Interprétant mal mon étonnement, il s'empressa de me rassurer. « Mais je crois que tu tiens d'elle également bien d'autres choses. » Il reprit son air amusé. « Comme toi, elle aurait refusé de dénoncer un domestique, uniquement pour lui épargner une réprimande. » « Parce qu'il n'est pas venu m'attendre à la gare, par exemple. »« T'attendre à la gare, comment cela ?» Il paraissait inquiet tout à coup. « C'est ce que mon oncle avait assuré à mon tuteur. »« Que quelqu'un m'attendrait à la gare. » Le visage de l'homme s'assombrit. « Si le capitaine s'était donné un peu plus de mal pour t'accueillir comme il faut, il aurait pensé à prévenir ceux qui devaient s'acquitter de cette tâche. » Il haussa les épaules comme pour chasser son irritation. « Non, je parle de ce matin, quand j'étais dans les bois. » Je ne pouvais pas lui avouer qu'en réalité je cherchais seulement à cacher mes larmes. Aussi expliquai-je. J'avais la tête ailleurs. Le capitaine Severn était en train de me montrer les endroits préférés de ma mère quand elle était petite. Il rit. Ce n'est pas difficile. Il n'y en a pas un seul à des lieux à la ronde qu'elle n'aimait pas. J'éprouvais de nouveau ce sentiment étrange et dérangeant que le monde dans lequel je vivais avant n'avait été qu'une hallucination, un rêve. À Outern Cottage, ma mère était une femme réservée qui vivait recluse. Mais ici, c'était une Liliana enflammée et intrépide qui grimpait aux arbres et partait se promener loin sur les chemins bordés de ronciers. Comment deux femmes aussi différentes avaient-elles pu n'être qu'une seule et même personne? Je restais là, troublée, à observer le jardinier qui levait les yeux vers les fenêtres de la maison, craignant sans doute que notre conversation n'ait trop duré. Puis il prit la lettre que j'avais à la main. « Vous feriez mieux de me la donner plutôt que d'ennuyer le capitaine avec cela. » Je veillerai à ce qu'elle soit postée. Était-ce un avertissement? Une discrète allusion au fait qu'il valait mieux que le capitaine Severn ne lise pas les confidences contenues dans ma lettre? Alors était-ce mon oncle qui avait si consciencieusement fouillé mon sac? Pourtant, que le jardinier me propose de s'en occuper, et sans doute même de payer son affranchissement malgré ses modestes ressources. Ce n'était vraiment pas dans l'ordre des choses. J'hésitais, à qui pouvais-je donc me fier en cette drôle de maison? Comme il me fallait encore un délai de réflexion, j'essayai de changer de sujet. C'est la deuxième fois que nous nous rencontrons. Comment vous appelez-vous?
Thomas.
Ainsi, Thomas, c'était lui. Et il avait très bien connu ma mère. Je le regardais fixement, car mon nom complet était Daniel Thomas Cunningham. Or, une mère ne donne-t-elle pas à son fils le prénom de personne chère de son entourage? Ma décision était prise. Je lui remis la lettre. Puis, comme cet homme paraissait d'un naturel généreux, je m'écriai « Thomas, je vous en prie, parlez-moi de ma mère. » Ma requête n'avait rien d'extravagant. N'étais-je pas un peu orphelin désormais? Qui aurait pu me reprocher ce désir légitime de mieux connaître ma famille? Il répondit avec prudence « Je suis sûr que la mère qui t'a élevé était la même personne que celle qui a quitté cette maison. » Nous étions tous deux gênés à présent. Je ne pouvais tout de même pas m'exclamer « Non, la Liliana qui m'a élevée était secrète et avare de paroles, et elle avait peur de tout, et elle était folle à lier, déchirait ses vêtements, jetait de la nourriture sur les murs. Tellement démente qu'elle s'est pendue à un barreau de fenêtres rouillées. » Je ne pouvais pas le dire, non, pas encore. Toutefois, quelque chose dans l'expression de son visage et dans sa douceur me poussa à me confier à lui sans retenue. Je croyais bien la connaître. Je sentis les larmes monter aux yeux. Mais depuis sa mort, elle est devenue une étrangère même pour moi. Elle ne m'a jamais rien raconté de notre enfance, rien de son enfance. Et j'ai eu beau regarder partout, je n'ai pas trouvé dans cette maison le moindre portrait d'elle, petite fille. « Oh, tu perdrais ton temps, » lâcha-t-il d'un ton amer. « Il n'y a plus aucun portrait d'elle ni de ses frères. »« Ses frères? Elle en avait donc plusieurs? Combien de secrets ma mère avait-elle gardé pour elle ?» Il nota ma stupeur. « Tu ne savais pas? Elle ne t'a même pas parlé de ses frères ?» Je le vis hésiter avant d'ajouter plus bas, peut-être par crainte d'avoir fait naître en moi de faux espoirs, ni de leur mort tragique. « Elle ne m'a rien dit !» m'écriai-je encore. Et cette fois, les larmes jaillirent vraiment. « Elle m'a laissée seule au monde et... » Il avait posé la main sur mon épaule. « Tu n'es pas seule, » me gronda-t-il. Je fis la grimace. « Oh si, je vous demande pardon. J'ai un oncle qui oublie d'envoyer quelqu'un me chercher à la gare, puis me nargue en me donnant des détails sur la vie de ma défunte mère. « Non, non, » me consola-t-il. « Tu as aussi des amis ?» Je l'attrapai par la manche. « Alors, dites-moi davantage sur ma famille. Comment les frères de ma mère sont-ils morts? Pourquoi s'est-elle sauvée? Et si mon oncle pense qu'elle a fui tous ceux qui l'aimaient et lui faisaient confiance, pourquoi m'a-t-il fait venir ?» Thomas jeta un nouveau coup d'œil vers la maison. Je me retournai pour voir ce qu'il regardait, mais maintenant, avec les reflets du soleil dans les fenêtres, il était impossible de dire qui était là en train de nous observer. Thomas avait dû voir quelque chose, pourtant, car il me dit d'un air entendu « Pas maintenant. Thomas !» Mais déjà, il filait vers le bois. Je restai planté là un moment éperdu, puis j'essayai de le suivre, mais il marchait trop vite pour moi. Bientôt, je n'entendis même plus les chuintements de ses pas et n'aperçus plus la moindre ombre qui aurait pu m'indiquer dans quelle direction il était parti. Alors, la mort dans l'âme, je repris lentement le chemin de la maison.